Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au théâtre de l'Alliance française pour Un masque et la plume, consacré ce soir à l'actualité littéraire avec les masqués au sens propre. Ma chère Patricia Martin, des petits matins du week-end de France Inter, Jean-Claude Raspienjas de La Croix, Arnaud Vivian de Transfuge et de Regard, et avec Frédéric Becbédé de La Côte Basque et du Figaro Magazine. On parle ce soir des nouveaux livres d'Édouard Louis, Alix de Saint-André, Sally Rounet, Joseph Andras, et d'un livre moins récent, mais qui paraît pour la première fois en France, c'est Eve à Hollywood, ou Yves à Hollywood, d'Eve ou d'Yves Babitz. C'est dans le courrier de la semaine. Patrick Savot reproche à Jean-Claude d'avoir dit de Will, le livre de Will Self, paru à l'Olivier, d'avoir dit « J'ai trouvé ça décousu, confus, je perdais le fil, il saute du coq à l'âne, or !» Or, Jean-Claude décrit sans le vouloir le propre de celui qui se drogue. Je conseille à Jean-Claude donc de prendre un cours de rattrapage avec Arnaud et Frédéric, puis de relire le livre de Will Self. Il y verra un chef-d'œuvre et un grand écrivain, nous dit Patrick Savot. Contrairement à certains d'entre vous, Arnaud Sanquer a beaucoup aimé L'ami de Tiffany Tavernier. Ça, c'était chez Vespisser. Qui démarre comme un thriller haletant, se transforme en drame psychologique. La descente aux enfers d'un homme. Et c'est écrit avec un style simple, mais redoutablement efficace. L'ami est ce qu'on appelle un page-turner. Si Romain Frezzato me remercie d'avoir conseillé de feu Philippe Jacotet le recueil de poèmes posthumes et La clarté Notre-Dame, eh bien, il déplore d'entendre parler si peu de poésie dans son cher masque. Or, il me semble que le style serait peut-être à chercher plus du côté des poètes contemporains que des produits romanesques manufacturés. Cela dit, parler et mettre en débat des recueils de poèmes, ça n'est, cher Romain Frezzato, jamais très facile. Titouan Laruelle, jeune auditeur régulier du Masque et la Plume, regrette pour sa part que la littérature jeunesse soit rarement au centre de nos débats, qui est aussi un regret, je sais, de Barnabé. J'aimerais conseiller, nous dit Titouan Laruelle, Scarlett et Novak, le nouveau roman d'Alain Damasio aux éditions Rajo. Le maître de la science-fiction signe, nous dit ce jeune auditeur, signe un court thriller captivant à destination des adolescents. Et merci d'embellir mes dimanches soirs par votre émission. Tu disais, ah oui, pourquoi, Arnaud, parce que tu l'as lu? Non.
Non, je ne l'ai pas lu, mais j'en ai beaucoup entendu parler.
Moi, je l'ai lu, et je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est un livre épatant.
Et vraiment. Donc, pour toute génération, si
ah, oui, dire. Oui, c'est un livre très court, très percutant, et c'est du Damasio, quoi. Donc, c'est...
Donc je rappelle le conseil de Titouan, c'est Scarlett et Novak, et c'est aux éditions Rajo d'Alain Damasio qu'on ne présente plus.
Si je peux me permettre, Jérôme, c'est qu'il y a une excellente émission le dimanche après-midi sur France Inter de Dorothée Barba.
Absolument.
Sur les livres pour enfants, c'est magnifique.
Enfin de Londres, où elle nous écoute fidèlement, Zora nous écrit « Mon masque chéri ». Je me demande si après le jeu du Zeugma, Arnaud Vivian n'aurait pas lancé, sans s'en rendre compte, le nouveau défi lancé à tes auditeurs. Alors, suite à l'incipit de Salambo, je propose, nous dit Zora de Londres, celui d'un conte de deux villes de Dickens qui commence de cette manière. C'était le meilleur des temps, c'était le pire des temps, c'était l'âge de la sagesse, c'était l'âge de la folie, c'était l'époque de la foi, c'était l'époque de l'incrédulité, c'était la saison de la lumière, c'était la saison de l'obscurité, c'était le printemps de l'espoir, c'était l'heure du désespoir, bon baiser de Londres. D'ailleurs, on dirait pas du Dickens du tout, hein. On est plus proche de Peggy que de Dickens. Mais malheureusement, on va peut-être arrêter ce jeu, mais Arnaud, chaque semaine, je reçois des courriers en faveur du sel ou du
cela dit, c'est véritablement un virus dans beaucoup de livres que je peux lire en ce moment. Et là, on voit bien que c'est maîtrisé. L'itération, l'anaphore est tout à fait volontaire. Mais la plupart du temps, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est que c'est fautif. On pourrait très bien mettre « et » à la place de « c » dans la plupart des cas. C'est ça que je veux
voilà,
dire.
Voilà. Enfin, en gros, tu l'acceptes chez Flaubert, mais pas chez n'importe qui.
Exactement. Aussi, on peut se dire qu'à l'époque, c'était nouveau. À l'époque de Dickens et de Flaubert, c'était peut-être plus nouveau qu'aujourd'hui de toujours dire « le machin, c'est le truc, c'est... » qui sonne plus comme des discours d'hommes politiques que de la littérature.
À mon avis, comme disait l'auditrice, on n'est pas au bout du feuilleton. Et on commence avec Combat au pluriel et Métamorphose au pluriel d'une femme, un bref récit d'Edouard Louis, 120 pages à peu près. L'auteur d'En finir avec Eddie Bellegueule, où il n'était pas tendre, pourtant avec ses parents, se réconcilie ici avec sa mère, Monique Bellegueule, laquelle avait déclaré avoir été très blessée par le livre où son fils disait avoir eu honte d'elle. Ici, donc, il raconte tout ce qu'elle a enduré. Deux mariages avec des hommes à la fois alcooliques et violents, des maternités à répétition, la pauvreté et même la misère. Mais elle a fini par quitter son mari, sa famille, son village de la Somme et s'est installée à Paris. Édouard Louis, lui-même, là je le cite, transfuge de classe, admire qu'elle ait eu le cran de se métamorphoser, d'obtenir enfin l'autre vie qu'elle méritait. Et à la fin, d'ailleurs, il l'invite dans des restos chics à Paris. Il lui offre même de fumer, je n'en dirai pas plus, une cigarette avec Catherine Deneuve. Tout à coup, écrit-il, le bonheur lui a donné une jeunesse. Un livre donc de l'ouvertement, de la réconciliation. Je t'ai lu il y a 10 jours dans le Figaro magazine, Frédéric. Tu n'es pas tendre, hein. Tu n'es pas tendre avec ce livre. Tu dis même que ça n'est pas de la littérature.
Non, c'est lui qui dit qu'il est contre la littérature dans tous les entretiens
contre la fiction.
Voilà, de ce livre.
Il le dit dans ce livre, d'ailleurs.
Il explique que la littérature ne devrait pas être le lieu de l'implicite, mais de l'explicite. Que la suggestion ou la litote sont des preuves de la domination de la bourgeoisie qui veut taire la pauvreté et la misère. Alors, c'est une théorie qui se défend, pourquoi pas, après tout, mais moi, je trouve que je préfère le suggérer, en réalité, au surligner. Et tout est surligné chez Édouard Louis depuis toujours. Là, il a un mérite, c'est que ça se lit en 15 minutes.
T'exagères.
Pour 14 euros, quand même.
C'est 14 euros.
C'est vrai que le titre est presque plus long que le livre. Hein.
Oh.
Et le titre est très commercial. C'est là où je me dis, même Delphine de Vigan n'a pas osé ça. C'est bon. Combat et métamorphose d'une femme, c'est vraiment un titre pour quand on a envie de toucher vraiment les masses, quoi, de séduire en ce moment. Et en fait, c'est un conte de fées. C'est un conte de fées. C'est l'histoire de cette femme battue, donc qu'il méprisait auparavant et qui maintenant il l'admire, il la sauve et elle s'échappe de sa condition terrible et sûrement réaliste, sûrement vraie. Et tout ça est respectable, bien sûr. Hein. Mais enfin, ça sonne un peu comme un feel good book de plus, quoi. C'est-à-dire tous ces livres où on nous explique le développement personnel. C'est assez effrayant, c'est pas grand-chose, au fond.
Moi, je vais te dire la vérité, c'est peut-être le livre de... il n'en a pas écrit tant que ça, qui m'a le plus touché de lui, sans
oui,
vaine polémique idéologique.
Mais d'ailleurs, ce qui... je suis d'accord, hein. Moi, je trouve que c'est le moins pire.
Ah, t'es d'accord, mais tu parles, toi, dans ton papier, du roi du misérabilisme chic, quand même.
Oui, parce que c'est Calimero, un peu, dans tous ses livres, il passe son temps à se plaindre. C'est vraiment trop injuste. Alors qu'en réalité, si on regarde, son destin est un exemple de la réussite de la méritocratie. C'est quelqu'un qui sort d'un milieu social dur et qui, grâce à son intelligence, a réussi à faire normal sup, à devenir un écrivain célébré dans
grâce
le monde entier.
Grâce aussi à son homosexualité, c'est ce qu'il a dit, hein, que s'il n'avait pas été obligé de fuir ce milieu original parce qu'il était homosexuel,
Patricia.
Il ne se serait jamais...
Il est le contre-exemple de toutes les théories de Pierre Bourdieu, qui disait toujours que quand on était inculte, c'était pour la vie. Eh ben non, là, pas du tout. Là, il est la preuve de quelqu'un qui s'est totalement émancipé, et sa mère avec lui, tant mieux. Mais alors, pourquoi se plaindre et se victimiser en permanence? Il y a une contradiction, là, qui me choque.
Tu veux pas reconnaître
le souci
de réconciliation?
Non, je reconnais une chose, c'est quand il dit du mal du suggéré. En fait, lui, il est assez bon dans ce qu'il critique, parce que les rares moments où vraiment on peut être touché, ce sont les ellipses. Il y a des silences, il y a des ellipses, il y a des moments où il se rapproche de sa mère, et c'est précisément parce que c'est tu que ça bouleverse. Alors donc, qu'il ne dise pas du mal de l'implicite, parce qu'il en fait très bien.
Patricia, donc, tu avais commencé.
Je suis très très perplexe, à dire vrai. Parce que moi, j'avais lu En finir avec Eddie Bellegueule, pour lequel d'ailleurs je l'avais reçu, qui était un très bon livre. Il avait tué, en tout cas symboliquement, il avait tué ses parents.
Y compris sa mère.
Y compris sa mère. Il était obligé de vivre à l'hôtel parce qu'il avait un frère qui menaçait de le tuer. Il se reniait à lui-même, finalement, en mettant comme ça sous le tapis d'où il venait, quoi. Et là, il se réconcilie avec sa mère parce que finalement, elle se met en accord avec lui. Moi, il y a quand même un truc qui me gêne et il y a un mépris.
Non, c'est parce qu'elle quitte sa condition.
Oui, mais elle quitte sa condition, mais donc elle, elle aurait pu ne jamais quitter sa condition et bon, voilà, ça, à la limite, ça le regarde pas, lui, si tu veux. Je trouve qu'il y a une façon il y a un mépris, d'une manière générale, chez lui, pour les pauvres, pour la condition de pauvres qui est...
Mais il n'y a pas de mépris.
Mais si, parce que quand il dit que les pauvres... quand il était petit, il lui fait dire, en tout cas, l'autre, il se croit mieux que nous. Bon, on dirait que les pauvres n'aiment pas lire, n'ont pas envie que leurs enfants s'émancipent et deviennent mieux qu'eux. Enfin, il y a toute cette vision de la pauvreté qui, moi, me finit par me gêner. Puis alors... Il va pas faire quand même un membre de la famille après l'autre. Sa trajectoire personnelle, moi, je comprends très bien qu'il soit revenu sur le rejet initial. Bon, enfin, il va pas faire un membre de la famille après l'autre, alors que c'est un type qui, à mon avis, a énormément de talent et puisqu'il aime pas la littérature, ou il ne l'aime qu'à l'estomac. Bon, bah très bien, mais qu'il la fasse à ce moment-là en inventant des choses ou qu'il écrive des essais. Qui pense de façon philosophique. Là, je dois dire que franchement...
T'es sur la même ligne que Frédéric Jean-Claude.
Moi, je suis en désaccord complet avec vous. C'est le livre qui, moi, me réconcilie avec Édouard Louis et surtout permet une révision des jugements que nous avons portés ces derniers temps sur lui, c'est-à-dire depuis l'histoire de la violence. C'est un livre qui se raccroche très très bien au premier.
L'histoire de la violence, c'était aussi une affaire avec la justice.
Ça se raccorde très très bien au premier. Le problème qu'il a, que vous pointez, qui n'est pas faux, mais qui n'est pas exactement celui que vous pointez, c'est qu'il est toujours dans son histoire de déterminisme de classe, c'est-à-dire, alors qu'il l'a transcendé, c'est-à-dire qu'il est allé très au-delà, c'est-à-dire qu'il était plombé d'entrée. Il n'avait aucune chance de s'en sortir, contrairement à ce que vous pensez. C'est pas... Moi, j'ai beaucoup reproché à Édouard Louis d'être dans la posture. Là, il n'est pas dans la posture. Il est dans une description terrible d'un monde dont on ne se sort pas. Lui s'en sort, pas les siens. Et par miracle, il ne sauve pas sa mère. C'est sa mère qui se sauve à tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'elle se barre et elle se sauve. Et lui observe ça. Il n'y est pour rien. Et il n'en revient pas. Et il est touché.
Il y a même cette scène incroyable où d'ailleurs elle arrive à Paris et elle dit à son fils Édouard Louis, si tu veux, je viendrai faire des ménages chez toi.
Tu me paieras.
Et tu me paieras. Et quand tu rentreras, évidemment, je serai parti. Je trouve que symboliquement, c'est un geste incroyable.
Oui, ce qui réveille d'ailleurs chez lui une inquiétude, c'est de se dire, mais au fond, est-ce que je suis devenu ces personnages que quand j'étais enfant...
De l'autre côté.
De l'autre côté, voilà. Ça réveille quelque chose de très profond chez lui. Il est extrêmement excusable par rapport à ce que vous lui reprochez. Je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui a toujours été, qui a toujours eu honte d'être ce qu'il était, puisqu'il portait en lui quelque chose de différent, et que cette différence, qu'elle soit celle de l'homosexualité, qu'elle soit celle du savoir, le condamnait à être perpétuellement rejeté, tout le temps. Je dis, excusez-moi, mais c'est quand même un sacré parcours. Mais il y a un très beau moment dans le livre qui est absolument magnifique, c'est quand il rentre au collège ou au lycée et il apprend des mots nouveaux qui sont fastidieux, bucoliques, laborieux, sous-jacents. Il rentre chez lui porteur de ces mots qu'il n'a jamais entendus, jamais lus. Et chez lui, on le rabroue en disant, voilà, tu te crois supérieur aux autres. Mais vous n'imaginez pas le travail personnel qu'il a fallu faire. Et surtout, moi, ce que j'aime énormément, c'est, je suis complètement en désaccord avec toi sur le titre du livre. Le titre est parfait, c'est exactement ça. C'est les combats de cette femme. Qui était prisonnière d'un statut dont elle ne sortirait pas, et c'est la métamorphose. Et par ailleurs, je trouve que... alors, il est toujours victime de certaines postures...
Je voudrais que tout le monde s'exprime sur ce livre, et que surtout, si tu permets Jean-Claude, et qu'on ait le temps d'évoquer tous les livres ce soir. Arnaud.
Alors, d'abord, moi aussi, je pense que c'est son meilleur livre, pour une bonne raison, c'est que les trois premiers, je les avais proprement détestés, soit les deux premiers étaient vraiment des livres de délation, c'est-à-dire il y avait une délation de ses parents pour en finir avec Eddie Bellegueule, qui était d'abord pour en finir avec ses parents. C'est surtout ça, et effectivement, en finir aussi avec ce nom. Hein, c'est imposer un autre nom qui est celui d'Édouard Louis. Le deuxième était vraiment une affaire
de
délation
que celui de Bellegueule.
Qui a conduit un homme en prison, tout de même, ne n'oublions pas. C'est un livre qui a conduit un homme en prison, qui d'ailleurs depuis a été innocenté, en tout cas, du viol dont l'accusait Édouard Louis. C'est pas rien, quand même.
Mais il y a encore un appel. Hein,
le troisième, qui était donc celui où soudainement, il redécouvrait son père comme working class hero. Mais là, c'était aussi un livre de délation, puisqu'il accusait Martin Hirsch, François Hollande, Nicolas Sarkozy de la mort de son père.
C'était un pamphlet idéologique, d'ailleurs.
Là, c'est la première fois où c'est un livre d'amour.
est purement d'amour. Il n'y a pas de délation. Moi, ça m'a fait penser à ces colliers de nouilles que les enfants fabriquent à l'école maternelle pour la fête des mères. Et c'est marrant parce que le livre commence justement sur la destruction d'un de ces objets. C'est son petit frère qui a fabriqué un objet pour lui à l'école, une bouteille de coca avec du sable de couleur. Et c'est Édouard Louis qui casse, qui détruit. Et sa mère lui dit, je n'ai jamais vu un enfant aussi cruel. Et tout le livre essaye de prouver que justement, il n'est pas cet enfant cruel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand il dit qu'il est contre la littérature. Alors, moi, je trouve ça vraiment très intéressant parce que, si vous voulez, ce qui est arrivé avec Édouard Louis, c'est au-delà des livres. C'est pour ça qu'il n'a plus besoin quasiment d'écrire de livres. Celui-ci est à peine un livre, c'est un texte. C'est ce qu'on appelait autrefois, dans les années 70, un texte. D'ailleurs, c'est très barthien, y compris dans l'usage de la photographie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est devenu le visage de la littérature aujourd'hui. C'est lui, le jeune écrivain, qui représente en France l'idée même de la littérature. C'est pour ça qu'il peut être contre. C'est pour ça qu'il n'a même plus besoin de faire des livres. Il est interviewé partout, il est l'écrivain. Bon, après, il se trouve que moi, cet écrivain, il est de mon côté de la barricade. C'est-à-dire que moi, quand je le vois aux côtés de Adama Traoré, eh ben, je suis heureux qu'il y ait un écrivain aujourd'hui qui soit aux côtés d'Adama Traoré. Voilà, donc voilà exactement ce qu'on peut en dire.
Jean-Claude, un mot, mais je voudrais qu'on évoque d'autres livres ce soir.
Juste un mot, il faut qu'il se débarrasse, Édouard Louis, de ses postures idéologiques sur la littérature et tout ça. Il est encombré de ça. Dès qu'il s'en extrait dans son livre,
il devient vraiment écrivain. Michel Foucault avait ces théories-là à la fin de sa vie sur le fait d'arrêter d'être écrivain, justement.
C'est le livre, d'ailleurs, qui marche très fort en librairie. C'est donc « Combat et métamorphose d'une femme », c'est signé Édouard Louis, et c'est aux éditions du Seuil, je ne sais pas si je l'avais précisé au début. Norman People, le deuxième roman après Conversation entre amis, de l'Irlandaise Sally Rooney, 30 ans, traduit par Stéphane Rock, et publié en France aux éditions de L'Olivier, après avoir connu un grand succès, d'ailleurs il faut le rappeler, aux États-Unis, et même inspiré une série qui fait un malheur. Le roman, dont la couverture montre un couple dans une boîte de sardines, raconte l'amitié amoureuse et tenue secrète entre deux adolescents, le populaire, le beau, le sensible Connell, mais d'un milieu modeste, comme dirait Édouard Louis, et l'impopulaire, parfois ingrate et surtout hautaine, Marianne, famille évidemment aisée, depuis leur lycée de province jusqu'à l'université de Dublin. Détail important, la mère de Marianne emploie comme femme de ménage la mère de Connell, de Sally Rooney. On dit volontiers ici et là que c'est la Jane Austen des millennials ou la Jane Austen 2.0. Qu'est-ce que vous en pensez, Arnaud?
Écoutez, un auditeur se plaignait tout à l'heure qu'il n'y ait pas de livre pour adolescents au Masque et la Plume. En voilà un. Et on devrait l'interdire aux plus de 18 ans, ce livre. À mon âge, je suis presque gêné de lire ça.
Pourquoi ?
C'est très chasse. Parce que
Il est vieux.
Oui.
Moi aussi, je suis vieille, mais je vois pas en quoi ça.
Voilà. Après, je vois une description. Alors, c'est pas Flaubert, Sally Rooney, du bétail noir, des prairies vertes, des maisons blanches, au toit de tuiles marron. On dirait un dessin d'enfant. Il manque plus que la fumée faite au crayon de bois, quoi. Et puis alors une autre. Les arbres sombres et maussades qui se dressaient tels des spectres. Alors là, c'est pas simplement la comparaison, c'est que tel est écrit T-E-2-L-E-S. C'est-à-dire que, visiblement, personne, ça n'a intéressé personne ce livre pour laisser passer une faute aussi énorme, à moins que, là encore, il s'agisse d'écrire contre la littérature et de laisser des fautes grossières.
D'abord, là, c'est une question
j'ai eu le sentiment de retourner en adolescence, y compris avec les fautes de grammaire.
Patricia.
Ah non, mais moi, j'ai trouvé ça formidable. Je suis désolée, mais les scènes de sexe, qui sont à la fois explicites, je les trouve formidables, franchement. Tu sens qu'est-ce qu'il y a avec
Non, non, mais je suis choquée, Patricia.
Choquée de quoi? Non, mais tu vois, quand à un moment donné, elle sait très bien que plus jamais il y aura une telle fusion avec aucun homme dans sa vie. Je trouve qu'il y a des très belles choses. Et puis c'est un apprentissage. Ils jouent à cache-cache les deux. Ils se jouent des tours pendables de jalousie, de je t'aime moi non plus, etc. Il y a une espèce de, mais sans jamais que ce soit quelque chose d'une coquetterie ou quoi que ce soit. Moi, j'ai trouvé que c'était un roman qui est chirurgical. De temps en temps, t'as une espèce de lumière crue, mais comme tu peux avoir dans un bloc opératoire, ce qui n'empêche pas l'intimité et la chaleur du livre. Elle, au départ, c'est pas du tout un personnage sympathique. Elle est méprisante avec les autres, avec ses copains, ses copines, etc. Connelle a une bonté qui va finalement.
Dans le cliché, c'est évidemment un peu la jeune bourgeoise hautaine et évidemment le garçon.
Ce serait cliché si elle était belle comme le jour. Or, elle ne l'est pas belle comme le jour, en tout cas au début. Après, quand elle va à la fac, elle devient belle.
Ah oui, elle n'est même pas belle au début.
Mais au départ, c'est pas une fille hyper attirante. Et puis, alors, en toile de fond, ce que j'ai trouvé justement suggéré, bon, il y a l'Irlande. L'Irlande est très présente, y compris même l'Irlande de l'Est et l'Irlande de l'Ouest. Et puis, la condition sociale, avec cette espèce de jeu où on ne sait pas. Si c'est sincère, si c'est par intérêt.
Je suis pas tellement d'accord, par exemple, sur l'Irlande. J'ai le sentiment que dans la fabrique d'un best-seller, parce que c'est quand même ça dont on parle, il y a aussi une volonté de gommer un peu tous les particularismes, ce qui fait que OK, il y a Dublin, il est question de Dublin, de Trinity College, mais c'est pas du tout l'Irlande de Edna O'Brien, par exemple.
Ah, ça n'a rien à voir.
Best-seller, entre parenthèses, que la série a rendu encore plus successful. Jean-Claude.
Écoutez, c'est un roman d'éducation sentimentale qui se joue sur 3 ans et demi, qui est scandé par le passage du temps. Moi, je le trouve assez original dans la mesure où il s'éloigne jamais de son objet, c'est-à-dire qu'on ne quitte jamais les deux personnages, qui sont dans une sorte d'attirance ombrageuse et que la différence de classe sépare. Et je trouve que la façon dont elle analyse ça, contrairement à ce que vous en disiez, ou ce que tu disais Arnaud, je le trouve assez intéressant. Je trouve que le style est d'une grande simplicité, c'est en quoi je vois dans quelle catégorie
disons tu es. Disons la traduction, pour être
la
tout
traduction.
À fait.
Mais c'est un style presque fade. Mais moi, je trouve que précisément, une des attractions de ce livre, c'est que cette simplicité, elle lui sert à décortiquer la complexité des sentiments. Je trouve que c'est un livre très behavioriste, c'est-à-dire que vraiment, elle s'intéresse aux comportements de façon très détaillée, elle les décortique, elle les analyse, et elle s'appuie sur le mouvement d'une introspection qui est toujours un petit peu incertaine. Donc, je trouve que de ce point de vue-là, c'est bien. Alors, là où je vous rejoins,
c'est que tu ne dis toujours pas si tu as pris du plaisir.
Alors, j'y viens.
Tu l'analyses, mais tu ne.
J'y viens. Et en même temps, je trouve que c'est un peu écrit à l'encre sympathique, c'est-à-dire que ça s'efface un petit peu dès qu'on a refermé le livre, et que c'est un roman aussi fugace que la tranche d'âge dont elle parle, c'est-à-dire ce passage de la post-adolescence à l'âge adulte, et que voilà, c'est quelque chose qui s'évanouit assez vite. Voilà, qui est assez.
Frédéric.
Plus je lis Sally Rooney et plus j'aime Édouard Louis, finalement. Parce qu'au moins, Édouard Louis est sincère.
Tu vas voir qu'à la fin de l'émission, tu vas revenir complètement sur ta chronique.
Au moins, c'est pas
consacré à Édouard Louis.
Ça, il est pas. Au moins, là, c'est. Enfin, je veux dire, Édouard Louis est sincère. Là, c'est fabriqué, on le sent. Tout est. C'est du travail d'orfèvre, c'est bien fait. C'est bien fait. Il y a les bons petits détails qui sont attendrissants aux bons endroits. Mais c'est quand même l'histoire la plus banale de l'univers. Et les références à Jane Austen, moi, je les vois pas du tout. Je vois plutôt une référence directe à Twilight. Avec, c'est un teen movie, quoi. Voilà, c'est un teen movie.
Oui. C'est une histoire d'adolescent.
Oui. Alors, voilà. Au début, c'est vrai que j'ai marché parce qu'il y a cette scène où le garçon entre dans la maison et il y a sa mère qui fait le ménage chez la fille.
Ça, c'est vraiment au début.
Ça, c'est une très bonne idée.
Ah bah oui.
Mais ça aussi, c'est un point commun avec Édouard Louis.
C'est pour ça que je l'avais évoqué.
Mais page 22, le garçon musclé, beau et intelligent joue au foot et marque le but. C'est lui qui marque le but. Alors là, je dis non, c'est du cinéma américain. Non, foutez-nous la paix.
Oh non, mais tu sais,
ça me tombe
bête,
des mains, quoi. C'est trop évident. Alors, je voudrais dire, puisque Olivia de Lamberterie n'a pas pu venir et que je la remplace, qu'elle a adoré. Alors, c'est quand même dommage que je la remplace.
Ah bah oui, là, oui. Franchement.
C'est tout à fait loyal et honnête de le préciser. Norman People, c'est donc le roman à succès de Sally Rooney. 57 rue de Babylone, Paris 7e, le nouveau roman d'Alix de Saint-André chez Gallimard. Alors là, contrairement à Édouard Louis, c'est beaucoup plus gros, 400 pages. Tout commence au milieu des années 70. Alix de Saint-André, qui est la fille très importante pour moi de l'écuyer en chef du cadre noir de Saumur, qu'on appelle également, vous le saviez ça, le grand dieu. Non, vous savez pas. Donc, qui vient d'être démis de ses fonctions, débarque à Paris avec sa famille. Elle a 17 ans, elle entre en terminale au lycée Victor Duruy, où elle devient l'amie d'une certaine Pia Muller, dont la mère, qui est mariée à un éditeur de disques classiques, tient à bout de bras une vraie et très étrange pension, le Home Pasteur, situé 57 rue de Babylone, Paris 7e, tout juste contre le cinéma La Pagode. Et dans cette pension, on rencontre notamment à demeure Alain Cuny, le pianiste Bernard Pfeffer, le photographe Richard Overstre, qui allait être l'assistant de Lozay et de Louis Malle, et puis ce fou furieux de Paul Jégoff, futur scénariste de Claude Chabrol, qui allait être assassiné en 1983 en Norvège par sa femme, à laquelle il venait de dire « Tue-moi si tu veux, mais arrête de m'emmerder ». Et c'est drôle, mais tu ris, mais Arnaud, mais c'est vrai, hein, tout est vrai, elle l'a même fait avec un couteau.
Oui, bien sûr.
C'est donc la Smala et la saga du Home Pasteur qu'Alix de Saint-André raconte dans ce livre aussi authentique qu'il est délirant. Délirant, je vous rappelle que la dernière fois qu'on a parlé d'un de ses livres, c'était donc l'avant-dernier, elle racontait comment elle avait perdu totalement la raison pour avoir abusé du baclofène, un relaxant musculaire, dans l'espoir d'arrêter de fumer. Il n'est pas sûr que le baclofène ait cessé totalement ses effets. En tout cas, moi, j'ai lu ça avec énormément de plaisir, de curiosité, et j'ai découvert surtout ce lieu que je ne connaissais pas. N'est-ce pas, Frédéric?
Non, je le connaissais pas non plus.
Mais tu connais pas Paris, toi.
Je connais bien le 7e arrondissement.
T'es provincial, en fait.
Comment?
Tu connais pas Paris, t'es provincial.
Maintenant, oui. Mais j'ai quand même grandi dans le 7e. Et donc, j'étais très touché par...
Il y a un portrait au tout début du 7e qui est formidable, de 4-5 pages.
Oui, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de livres sur le 7e arrondissement de Paris. Celui dont je me souviens, c'est L'Europe buissonnière de Blondin, qui commence par cette célèbre phrase « Passé 8 heures du soir, les héros de roman ne courent pas les rues dans le quartier des Invalides ».
Alors qu'il ne commence pas par « C'était passé 8 heures du soir ».
Non, il n'y a pas « C'était ». Bref, et donc ça, mais c'était en 49 ce livre sur le 7e, et depuis il n'y a pas eu grand chose. Avant il y avait eu Marcel Proust, et maintenant il y a Alix de Saint-André. Donc j'aime beaucoup la mélancolie du début, c'est très drôle, c'est très triste, cette entrée au lycée Victor Duruy où cette adolescente coincée se retrouve chez les Pimbèches, puisqu'à l'époque on disait Pimbèche et pas Pétasse. Il y a un côté presque modianesque dans ce début. Après, l'enquête sur le home, sur la pension de famille, avec tous les entretiens en entier, les emails et tout ça, je trouve qu'elle aurait peut-être pu trier dans toute cette documentation, parce que c'est un peu comme d'imprimer son brouillon, et je trouve que c'est dommage, puisque c'est un bon écrivain, qu'elle aurait peut-être pu, au lieu de 400 pages, en faire la moitié. Mais quand même, bon, il y a un charme. Je voudrais tout de même relever une erreur très importante, page 225. Elle dit « Comme à la Samaritaine, dans la publicité de l'époque, il se passait toujours quelque chose ». Eh bien non, le slogan de la Samaritaine, c'était « On trouve tout à la Samaritaine » et l'endroit où il se passe toujours quelque chose, c'est aux Galeries Lafayette. Et je trouve qu'il ne faut pas se tromper quand on cite de grandes références culturelles.
C'est ce qu'on appelle de la critique littéraire. Ouais. Ce que je voudrais quand même ajouter, c'est qu'on apprend des choses que je ne savais pas sur Jégoff, y compris qu'il avait quand même volé un tableau.
La Joconde. Une reproduction de la Joconde.
De la Joconde, mais qui valait de l'argent parce que c'était...
C'est ce qu'il y a de mieux, moi, à mon avis, c'est ce qu'il y a de mieux dans le livre. Moi, je suis très friand de tout ce qui concerne Paul Jégoff. J'avais lu sa biographie par Arnaud Le Guerne, publiée aux éditions Pierre-Guillaume de Roux, si mon souvenir est bon. Et donc, dès que j'ai connu ce bonhomme, il y a tellement d'histoires à son sujet, donc plus on en rajoute. Quand elle va rencontrer sa fille, qui habite toujours en Norvège, qui est devenue peintre, donc on s'attend à des révélations, malheureusement il n'y en a pas, on ne peut pas dire que sa fille ait grand-chose d'intéressant à raconter sur son père. Elle était toute petite,
Elle a eu du mal à la rencontrer, la fille, cela dit.
Oui, la quête est belle. Il y a un côté journaliste chez Alix de Saint-André, c'est-à-dire qu'elle nous raconte la quête. Elle est tenace, d'ailleurs. Quand elle veut rencontrer la fille de Jégoff, elle y met tous les moyens. Mais après, ça donne pas grand-chose. Et l'entretien, je suis d'accord avec toi, Frédéric, il y a beaucoup d'entretiens, il y a beaucoup de matière, de manière très faux-folle, en fait. C'est le côté faux-folle d'Alix Saint-André qui est sympathique aussi dans le livre, qui renvoie d'ailleurs à l'idée de cette pension. On voit quelque chose de fou, d'un peu foufou.
Qui appartenait aussi à l'avocat et grand ami et biographe de Céline, François Gibault. Avec qui on a d'ailleurs des conversations qui sont assez intéressantes, je trouve.
Oui. Il y a des choses intéressantes, mais il y a à prendre et à laisser tout le temps. Ça aurait été bien qu'elle aurait dû ranger un peu sa chambre, Alix de Saint-André.
Jean-Claude.
Ah, moi, je trouve que c'est d'une fantaisie, c'est d'un bonheur, ça fait plaisir, ça fait du bien, c'est plein d'humour.
Parce qu'on est, enfin moi j'étais heureux d'habiter dans cette pension.
Mais moi aussi, il y a une énergie folle et c'est un livre qui fait du bien, quoi. Voilà, on est content de lire ça. Ça fait, c'est ébouriffant, c'est bien tenu. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un moment où elle se perd en métro et il y a à peu près un ventre creux au milieu, enfin qu'elle a rempli, mais c'est un peu dommage, quoi. Elle se perd, mais les portraits qu'elle fait sont formidables. Sur Gibault, c'est magnifique. Sur Florence Malraux, c'est superbe. Enfin,
c'est beau
quand elle parle de la fin de la vie de Florence Malraux en disant frêle Tanagra au courage de Sumo. C'est très très beau.
Et la recherche d'un endroit où enterrer.
On apprend que Françoise Sagan lui a proposé de partager sa tombe dans le Lot.
Parce qu'il y a ces deux grandes copines, Françoise Sagan et Françoise Giroud.
Oui. Et que, bon, elle n'a pas voulu y aller. Elle a des expressions magnifiques. À un moment, elle parle de deux personnages qui vieillissent, et notamment Gibault et un autre. Et elle dit, l'un vieillit au vinaigre, l'autre à l'huile. Et ça, c'est très très beau. Les galeries de personnages sont magnifiques. Gégoff, le pianiste, Samuel, tout ça. Bon, elle reprend de la vitesse.
Et puis la femme qui tient France.
Bien sûr.
Qui tient la pension.
Ce qui est de formidable chez elle, c'est à la fois effectivement ce côté fofolle, c'est ce que tu disais tout à l'heure, cette évocation des années 70 déjà surannée, déjà, c'est déjà fini, c'est un monde qui s'achève. Elle s'amuse de tout, elle se sert de toutes les anecdotes, elle transforme ça en épopée bourgeoise. Elle gambade dans les souvenirs, elle fait revivre les souvenirs et c'est follement romanesque. Quoi, c'est romanesque à souhait. On prend un énorme plaisir à ça. Et si elle avait retiré en effet quelques pages, des mails et tout ça, ça aurait été encore mieux, mais c'est déjà très bien.
Patricia.
Moi, je trouve qu'elle est fofolle, mais elle est tenace. Donc, elle n'est pas si fofolle que ça, parce que c'est un livre...
Elle est très fofolle pour la fille d'un écuyer en chef.
Oui, bon, bah, peut-être. C'est une fille son livre, il est tenu. Alors, vous dites qu'il y a quelquefois des longueurs, mais c'est un vrai jeu de piste. Enfin, c'est un livre qu'elle porte en elle depuis des années et des années.
Oui, parce qu'il faut juste expliquer qu'elle essaye de retrouver les pensionnaires japonais, américains. Et donc, il y a beaucoup d'échanges de mails.
Échanges de mails, mais qui... que moi j'ai trouvé touchant. Et le point de départ, c'est qu'il y a aussi ça, enfin je ne sais pas si c'est le point de départ, mais en tout cas il y a cette amitié entre ces deux filles, entre elle et Pia, qui est un personnage tout à fait extraordinaire, elles se ressemblent pas du tout, elles sont même diamétralement opposées. Pia, elle est dans le rang, elle est dans les conventions et même dans les codes, alors que Alix de Saint-André, évidemment, c'est une rebelle, c'est un ours, fille de très très bonne famille, mais elle regarde un peu sa copine comme une extraterrestre. Et puis, bon, galerie de portraits, vous l'avez dit, et il y a France, mais il y a Cocotte et Monica aussi, qui ont été des femmes d'une intelligence, d'une générosité, des vraies mamas italiennes. Et là-dedans, ça se frotte, ça discute, on confronte ses idées. Enfin, on a vraiment envie d'en être. Il y a des repas qui sont des
Oui, repas cuisinés toujours par France, la mère de Pia, et qui met toujours les cendres de ses cigarettes dans chaque plat. Hein.
Mais avant, Cocotte aussi, elle cuisinait très très bien, la grand-mère. Bon. Non, je trouve que c'est un livre joyeux, reconstituant. On en a bien
57
besoin.
Rue de Babylone, c'est Paris 7e, c'est le titre du roman d'Alix de Saint-André, qui est plus un récit enquête d'ailleurs, d'Alix de Saint-André chez Gallimard. On quitte Paris pour Los Angeles avec Yves à Hollywood, de l'américaine Eve Babbitt. Traduit par Jakuta Ali Kavazovic et publié au Seuil. Eve Babbitt, je le rappelle, aujourd'hui âgée de 77 ans, est née à Los Angeles. Elle est notamment l'auteur de Eve à Hollywood et de Sexe et Rage, qui reparaît d'ailleurs ces jours-ci dans la collection de poche Point. « Je ressemblais », écrit-elle, à Brigitte Bardot, et j'étais la filleule de Stravinsky, les deux choses étant vraies d'ailleurs. Elle est aussi et surtout celle qui, sur cette photo légendaire de 1963, joue aux échecs en tenue d'Ève contre Marcel Duchamp. Elle est à gauche, lui est à droite. C'est vrai que c'est devenu une photo emblématique. Ève à Hollywood, c'est donc son autobiographie qui avait paru aux États-Unis en 1972. Où l'on rencontre plein de rockstars, où l'on croise Chaplin, Greta Garbo, Marlon Brando, Tony Curtis, l'un de ses nombreux amants, qui est un certain Harrison Ford, où l'on fréquente, comme Frédéric, le célèbre château Marmont, je ne vais pas ajouter, et où on se drogue par insouciance, témoignant devant une commission sénatoriale sur le LSD. Elle expliqua à Bobby Kennedy « Tous les gens que je connais fument de la marijuana, sauf ma grand-mère. » Eve Hollywood, Jean-Claude, est-ce que ça t'a réconcilié avec la drogue ?
Ah, mais je ne savais pas que ce serait le thème de la soirée. Donc,
c'est le thème de préparé. Tous les masques et la
plume. Je me serais préparé. Frédéric m'a fait le geste tout à l'heure. Pour moi, il fallait s'y prendre. Donc, non, je trouve qu'il y a un début pétaradant. Je trouve ça très rigolo. Il faut préciser quand même d'entrée, il y a 9 pages de remerciements. Et dans ces 9 pages de remerciements, il y en a plein qui sont marrants, mais il y en a un que j'aime beaucoup, c'est « Et à celui dont l'épouse serait hors d'elle si j'incluais ne serait-ce que ses initiales ». Je trouve ça absolument formidable. Il y a une sorte de fraîcheur, de fausse innocence tout le long de ce livre. C'est le portrait en relief d'une vraie femme libre qui ne s'embarrasse de rien. Ne s'encombre ni de manière ni d'homme, et qui est seulement guidée par ses envies et qui promène donc cette fraîcheur et cette fausse innocence sur le monde qu'elle découvre. Donc c'est plein de célébrités, mais la façon dont on les traite, c'est comme si elle croisait des voisins. Au début, il y a une description des musiciens de la Philharmonie de Los Angeles qui est hyper poilante. C'est pétillant comme du champagne, c'est légèrement et agréablement déphasé, ça rend euphorique, mais pour moi c'est une sorte de littérature de cocktail, c'est-à-dire c'est amusant, c'est rafraîchissant. C'est une sorte de carnet de bal divertissant, mais ça ne mène pas bien loin. Il y a quelques embardés de style, il y a des trouvailles d'observation. Ça part dans tous les sens, c'est d'un intérêt très inégal.
Frédéric est en train
ça
de...
Tourne, ça,
la
ça,
collapse.
Ça tourne en rond, et au de bout du siège. Compte, c'est un peu vain.
Alors Frédéric.
Mais c'est la traductrice qui en parle le mieux, Yakuta Ali Kazanovic.
En quelques pages.
Elle dit de la légèreté élevée au rang des beaux-arts. Et c'est exactement ça. Quel meilleur livre ai-je lu sur Los Angeles dans ma vie? Peut-être aucun. C'est même mieux que le dernier film de Tarantino sur Los Angeles. Et c'est une capsule temporelle puisque... Tu l'as dit, c'est sorti en 72. Tout d'un coup, c'est traduit
on
ici.
On ne comprend toujours pas pourquoi il a fallu attendre autant de temps pour que ça paraisse en France.
Livre, c'est un livre qui a un charme fou. Et là, c'est comme une capsule temporelle. Tout d'un coup, on a accès au monde d'avant et de bien avant. Un monde de liberté totale, de je m'en foutisme, de soleil. Elle décrit Los Angeles, elle dit, il n'y a pas de saison, juste des tremblements de terre et des fêtes. Mais on a envie d'y être, enfin, je veux dire.
Non, pas Jean-Claude, il ne veut pas y être.
Attends. Ah, présenté comme ça, pourquoi pas? Non, mais attends. C'est pas...
Un livre où il y a effectivement 9 pages de dédicaces, dont au Château Marmont et au Beverly Hills Hotel et au Tempura. Moi, je trouve, voilà, c'est du dandysme absolu. Et j'aime les dandys du sexe féminin. Je trouve, il y en a de plus en plus, sauf qu'on ressort des textes, notamment Shirley Goldfarb, Diana Vreeland, Dorothy Parker. Et puis en France, on avait Sagan et Colette. Mais ces femmes-là, est-ce qu'elles n'ont pas fait plus pour la libération des femmes que les féministes militantes?
Colette a beaucoup fait, mais c'était pas une dandy.
C'est vraiment quand même non. Une vie
elle
qui est une œuvre d'art.
Elle en parle beaucoup d'ailleurs de Colette. Hein, c'est un de ses écrivains préférés, à Yves Babitz.
Et voilà. Et donc je cite juste une phrase, mais il y en a mille. Elle dit « Je crois au lévrier afghan, à l'ess en serpent ». Comment ne pas adorer ça?
Et tu voulais ajouter un mot, Jean-Claude?
Non, j'ai dit que c'était comme du champagne. C'est agréable de dire du champagne. Mais
oui.
Tu vas pas passer ta soirée à boire du champagne.
C'est vachement plus profond que ce que tu dis. T'as l'air de dire que c'est superficiel.
Soirée, ma vie.
C'est pas superficiel du tout.
Patricia.
La façon qu'elle a, elle fait de sa vie une œuvre d'art. Et d'ailleurs, il n'y a que l'art qui l'intéresse. Et elle dit qu'on ne peut juger un pays d'abord qu'à travers son art. La musique chez eux qui est omniprésente, c'est cet appartement dans lequel il y a des chanteurs d'opéra qui viennent. Le père joue de son côté. On lit de la poésie. La mère est à la cuisine, mais elle entend quand même tout ce qui se passe. Enfin, c'est
fabuleux. Vous n'en parlez pas, puis toutes ces stars qui passent quand même.
Toutes ces stars qui passent.
C'est impressionnant.
Elle
qui
dit qu'elle préfère les répétitions. Elle a une façon de parler des répétitions par rapport à ce qu'on voit quand le spectacle est vraiment monté. Je trouve ça absolument fabuleux et je lui donne 10 fois raison. Il n'y a aucune faute de goût dans la vie de cette femme. Je trouve vraiment, alors qu'elle pourrait précisément être une femme artificielle, hors sol. Elle vient d'une famille...
J'ai jamais dit ça.
Ses grands-parents étaient
jamais
pauvres.
Dit ça. Vous faites un procès,
elle,
j'ai jamais dit
elle
ça.
Elle rencontre des loubards à un moment donné, près de l'océan, avec des copines. Elle va leur parler, etc. Enfin, c'est une fille tout terrain, en tous les sens
notre
du terme.
Notre but est de convaincre Jean-Claude. Si tu peux pas dire que tu aimes le Home Pasteur du 57 rue de Babylone d'Alix de Saint-André et pas aimer cet endroit foutraque qui a la même fantaisie.
Je l'aime comme j'aime boire du champagne, comme j'aime un cocktail, mais je dis simplement que ça remplit pas, quoi.
Et c'est la
un peu
façon
vain,
dont elle parle de sa première fois avec un homme, ce dont elle se souvient, je le dirai pas parce que il faut que vous le découvriez. Moi, ça me remplit de joie.
Et là, sur son frigo, elle a collé une phrase de Cocteau qui est « Les privilèges de la beauté sont immenses ». Et c'est vraiment un livre là-dessus.
Mais ça, c'est parce qu'elle veut faire du régime, elle veut maigrir, c'est pour ça qu'elle a mis ça.
C'est pas du tout politiquement correct, mais c'est un livre sur le pouvoir de la beauté physique, hein, qu'elle possède quand même. Mais surtout, elle parle de ses amis. Hein. C'est-à-dire, elle est au lycée, il y a 20 filles qui sont des super canons qui vont devenir des stars de cinéma. On est à Hollywood. C'est ça dont elle parle. C'est d'Hollywood et du culte de la beauté à cet endroit. On peut plus, quasiment, on pourrait plus dire ça. Hein. On serait traité quasiment de raciste. Et elle a une plume. L'air de rien, t'as cité déjà de très belles phrases. Moi aussi, j'en ai noté plein. Les voitures filées comme du papier qu'on déchire. C'est tellement beau, quoi. Je veux dire, c'est un véritable écrivain. C'est-à-dire que ce qui est formidable, si vous voulez, c'est que c'est là aussi, elle écrit d'une certaine manière contre la littérature. C'est qu'elle n'a aucune idée de ce qu'est la littérature. Enfin, je veux dire, c'est pas son problème.
D'ailleurs, elle dit qu'elle est une artiste et pas une écrivaine.
Exactement. Et du coup, c'est magnifique dans la langue même, quoi.
Enfin, une émission, on commence par le village de la Somme de Madame Bellegueule et on passe à Hollywood.
Au
et
Château
Hollywood d'Eve Babit, c'est à Château Marmont. C'est quand même une émission exceptionnelle. Eve Hollywood, c'est donc signé Eve ou Yves Babit. Et c'est aux éditions du Seuil. Et précisément, on termine avec Joseph Andras. Vous savez, cet écrivain mystérieux qui refuse toute interview, jeune écrivain, et qui avait refusé il y a 5 ans le Goncourt du premier roman pour De nos frères blessés, qui était un excellent roman, je trouve, sur Fernand Yveton, ce militant communiste guillotiné à Alger pendant la guerre d'Algérie. Et là, il publie deux petits récits, mais vraiment tout petits. D'un côté, Ainsi nous leur faisons la guerre, c'est chez Actes Sud, qui est un pamphlet contre la maltraitance animale, évidemment, qui commence par une histoire incroyable qui s'est passée à l'université de Londres en 1903, quand un professeur...
Non, raconte pas.
Il faut pas que je raconte.
Bah alors, si, il raconte, mais je me bouche les oreilles.
Il faut bien que je raconte un tout petit
peu
au moins.
Vas-y, je me bouche les oreilles.
Donc, il a pratiqué une expérience sur un chien vivant et ligoté.
Mais je suis pas folle, je peux pas entendre ça.
Et puis, oui, mais enfin, je.
Non, mais Bec Bédé me regarde comme si je sortais
aussi,
de.
Je peux aussi arrêter l'émission.
Tu l'as lu quand même. Tu l'as lu.
Et puis, il y a aussi cette histoire en 85 sur un campus californien où un bébé singe est rendu aveugle dans le cadre de recherches sur les sonars. Il y aura même une troisième histoire. Et puis, de l'autre côté, ça n'a rien à voir. Hein, c'est Au loin, le ciel du Sud, où Andras fait le portrait du futur Ho Chi Minh lorsqu'il vivait à Paris dans les années 1917-1923 et se préparait à faire la révolution en Indochine. Donc, on peut pas tout peut-être parler de tout, mais au moins, dites-moi si vous avez aimé l'un de ces deux livres de cet écrivain qui se refuse à vous, c'est-à-dire aux médias, Patricia.
Parce que ce serait un frein à son indépendance. C'est pour ça qu'il avait refusé d'ailleurs d'avoir le Goncourt du premier roman. Moi, je n'ai pas lu Ainsi nous leur faisons la guerre. J'ai essayé plusieurs fois, je ne peux pas.
Mais pourquoi Donc c'est parce que tu es trop sensible à ce
sujet-là. Sensible. En tout cas, je peux quand c'est Isabelle Sorrent qui écrit 180 jours parce que il s'agit d'une masse d'animaux, mais je ne peux pas regarder une vidéo de L214, et je ne peux pas lire qu'on casse les pattes d'un chien pour faire... Je ne peux pas. Bon. Mais c'est pas pour ça que qu'Andras est un mauvais écrivain. Moi, c'est au contraire quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Au loin, le ciel du Sud, il y a dans ses livres toujours une radicalité absolument extrême.
Ça, c'est sur le futur Ho Chi Minh, si
voilà,
je
veux dire. Oui, qui est d'abord venu à Paris.
À Paris. Et là, Andras a eu accès au rapport de police
voilà.
De l'époque.
Et c'est une révolte épidermique qu'a cet homme... Tout ce qu'il dit finalement est politique et on peut gueuler autant qu'on veut. De toute façon, ce qu'il y a en face, c'est-à-dire l'État, est toujours sourd et que c'est un homme qui ne s'assoira jamais, qui toute sa vie restera debout grâce à la littérature. Et c'est formidable. Hein. Ne prenez pas... peut-être que si vous arrivez à lire Ainsi nous leur faisons la guerre, allez-y. Hein.
Frédéric, tu as pu lire le livre sur les animaux, toi,
Ainsi nous leur faisons la guerre. Et j'hésite pas à dire que c'est le premier chef-d'œuvre de l'antispécisme. Il y avait eu un livre de Jonathan Safran Foer.
Absolument.
Faut-il manger les animaux?
Jean-Baptiste Delamo aussi, qui avait fait un livre.
Et là, c'est une découverte extraordinaire. Je ne connaissais pas du tout. Ce qui est frappant, c'est la densité. C'est-à-dire que on parlait de la littérature explicite d'Édouard Louis, c'est le contraire. Tout est tellement ramassé, condensé, qu'il y a une force de l'implicite, de la cruauté du non-dit, de la suggestion, qui fait qu'on est effectivement très très mal à l'aise.
Ce qu'il raconte est d'une violence.
La description
inouïe.
De la torture du chien vivant.
Quand on sait que c'est vrai, c'est
inouïe. Et puis à la fin de l'évasion d'une vache récemment.
Ah oui.
Il y a une vache
veau.
Qui s'est évadée d'un camion qui a été poursuivie par la police et exécutée par les flics, qui a reçu 78 balles. Enfin, moi qui aime la viande, franchement, c'est la première fois qu'un livre... m'amène à me poser cette question vraiment de mon rapport à cette nourriture. C'est un texte qui peut rendre végétarien pas mal de gens et je pense que c'est un immense écrivain.
Arnaud ?
Écoutez, là encore, je suis du même côté de la barricade que Joseph Andras, de toute évidence, mais je dois vous dire que j'ai un problème avec ceux que j'appellerais les nouveaux minimalistes, dont le chef de file serait Éric Vuillard. Je n'aime pas du tout ce style.
Je n'aime pas la densité.
Je trouve ça... Il y a justement, eux, c'est pas contre la littérature, ils écrivent tout contre la littérature, voire même avec la littérature, mais ça donne une espèce de néo-académisme dans la langue, quelque chose de toujours assez contourné. Toi, tu dis densité, moi je dirais contourné, qui me donne l'effet d'un nouvel académisme.
Ah
c'est
non.
Que c'est quand même, si au niveau du style, je trouve
je te lis
ça
des phrases.
Extrêmement,
je te lis des choses
extrêmement
que j'ai notées.
Académique.
Regarde, par exemple, on est en train de torturer un chien. à Londres en 1903. On sait bien que ça ne va servir à rien et il écrit « La face du monde sera changée un autre jour, point virgule, une clochette fait ce qu'elle a à faire ».
C'est oui, fort. Évidemment, moi aussi j'ai trouvé terroriste, c'est un mot plein d'astuces. Ok, ça, c'est une belle formule, mais il y a une manière, si vous voulez, d'écrire que je trouve totalement kitsch et que je n'aime pas vu hier aussi. Pour ça, il sort tout droit de la cuisse de Pierre Michon, hein, mais ça n'a rien à voir avec ce que Echenoz pouvait faire dans un style minimal quand il faisait ses biographies.
Cela dit, ce que tu viens de dire ne s'applique pas du tout à De nos frères blessés. Je ne sais pas si tu l'avais vu.
Non, je l'ai pas lu. Ce portrait d'Yveton. Mais là, pour le coup, ça s'applique aux deux, oui. Y compris à celui sur Ho Chi Minh.
Jean-Claude,
c'est un livre qui est à la fois séduisant et irritant.
Tu vois, on parle bien de celui sur les animaux, hein.
Oui, absolument. D'accord. Donc séduisant et irritant. Séduisant parce qu'il est manifeste que cet auteur aime le style et que c'est un amoureux du style. Et l'entrée dans le livre est absolument séduisante pour ça. C'est qu'on a affaire à un écrivain qui aime le style. Pourquoi c'est irritant? C'est qu'il aime son style. C'est-à-dire qu'il fait un peu l'intéressant. C'est-à-dire qu'il abuse de son style, il se mire dans l'amour de son propre style, il en fait beaucoup, il se regarde écrire.
Enfin, on a quand même besoin de gens qui se soucient de la
tourne,
forme.
Et ça tourne au maniérisme. C'est-à-dire que sous ce fatras de style corseté, ce que tu viens de décrire, il noie totalement la violence de ces histoires
et la nécessité. C'est l'inverse.
Et la nécessité,
c'est en étant laconique.
Et la nécessité de son manifeste végétarien. C'est-à-dire qu'à un moment, son style encombre tout, occupe l'espace, et il se regarde le faire. Et il y a des pages délirantes, hein. Alors, il y a des moments où il s'embarque dans des phrases interminables. Alors, des fois, ça dure sur deux ou trois pages. Alors, ça, c'est le summum de son audace. Mais vous avez relevé des choses, moi, j'en ai relevé aussi. Les mots, ça ne sert pas à dire le propre de chaque visage, l'unique de chaque vie, le singulier de chaque esprit. Ça sert à dire les animaux, les poissons, le bétail, la volaille ou la viande, à dire le monde en tas, et les tas, ça n'existe pas.
C'est donc
pas mal.
Joseph Andras.
C'est vertigineux de...
Non,
voilà.
Pas mal.
Voilà.
Avec deux petits livres, l'un que n'a pas pu lire Patricia, pour des raisons tout à fait acceptables, c'est « Ainsi nous leur faisons la guerre », et toujours chez Actes Sud, « Au loin, le ciel du Sud » pour Joseph Andras. Et si vous le trouvez, lisez ou relisez « De nos frères blessés », dont je précise que ce sera... Moi, je l'ai déjà vu, mais il est reporté, évidemment, un film d'Elie Cisterne avec Vincent Lacoste, qui joue d'ailleurs précisément le rôle de Fernand Yveton. Et ce film, eh ben voilà, ben, j'espère qu'il sortira quand les salles vont rouvrir. Le temps est venu des conseils. On va commencer avec Patricia.
Alors, moi, je suis tombée tout à fait par hasard sur un livre qui m'a embarqué, qui s'intitule « Ailleurs », qui est publié chez L'Arpenteur et qui est écrit par un monsieur qui s'appelle Dario Franceschini et qui est ministre de la Culture, qui est une sorte de Jack Lang italien, parce qu'il a été à différentes
reprises... Tu dis pas bachelot italien, toi tu dis Jack Lang italien.
Non, oui, enfin oui, parce que Jack Lang, je pensais à la longévité en l'occurrence. Oui. Mais c'est un type donc qui a été à plusieurs reprises et qui est l'actuel ministre de la Culture d'Italie. Et c'est une rencontre tardive entre un père et un fils, et les révélations que ce père va faire à son fils, je vous dirai évidemment pas lesquelles, mais ça bouleverse complètement la vie du fils. Et je peux vous dire que c'est assez fort sur le plan de la révélation. Et ça oblige à regarder précisément le monde ailleurs, ou en tout cas d'ailleurs.
Voilà. C'est donc aux éditions de L'Arpenteur.
Oui, c'est ça.
C'est signé...
Dario Franceschini. Si
Franceschini,
voilà.
Et le titre ?
Ailleurs.
Ailleurs. Le conseil de Jean-Claude.
Deux livres chez une petite maison d'édition qui est très bien, qui s'appelle Le Festin.
À Bordeaux, c'est à Bordeaux.
C'est à Bordeaux. Et c'est le livre de Michel Suffren qui s'appelle Le Bordeaux de François Mauriac.
Cher Michel Suffren.
Et on parlait de style. Alors là, nous avons quelqu'un qui est un vrai styliste et qui ne se regarde pas écrire, qui ne profite pas de son style.
Mais si tu permets, un styliste à l'ancienne.
À l'ancienne. Ah ben oui. C'est un style stendhalien, c'est un style proustien. Alors c'est quoi le Bordeaux de François Mauriac? C'est que il affronte le malentendu tenace qui a collé à l'existence de Mauriac, à savoir que ça avait été un fils ingrat par rapport à Bordeaux. Et il mêle ses propres souvenirs, Michel Suffren, qui a beaucoup écrit sur Bordeaux, avec le travail littéraire de Mauriac. Et surtout, il explique en quel point le Bordeaux de Mauriac ne se rapporte qu'à l'enfance et rien d'autre. C'est-à-dire que dans l'œuvre de romanesque de Mauriac, Bordeaux apparaît très peu et ses personnages n'y font que passer. Et il règle le problème de ce malentendu, et il y mêle ses propres observations de Bordeaux et il restitue les pages littéraires de Mauriac et les traces de Mauriac. Et il y a aussi beaucoup de photos d'archives.
Petite parenthèse, il avait fait un très grand livre qui s'appelait Génération perdue.
Sur une génération perdue.
Sur une génération perdue, où il parlait précisément de tous les écrivains bordelais, dont Jean de la Ville de Mirmont et beaucoup d'autres, qui sont passés, c'est qui ça. Sont nés souvent dans cette
Alors,
dans
ce qu'il faut dire de Michel Suffren, c'est qu'il appartient à cette belle lignée des écrivains médecins. On peut lire aussi un livre qu'on réédite de lui dans la même collection, qui s'appelle La Réunion de famille, qui sont ses souvenirs d'enfance en Lot-et-Garonne. Et je voudrais dire juste une chose, il est mort en 2018, et Bordeaux a décidé, sur cet écrivain très méconnu qui est Michel Suffren, mais qui est magnifique, Bordeaux a décidé de lui donner un nom à une toute petite place où il est agréable d'arrêter ses pas.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, Jean-Claude, sur cet écrivain trop peu connu qui est Michel Suffren. Mon conseil, c'est un tout petit livre, hein, pas cher, 3,90 €, qui paraît dans la collection Tract chez Gallimard. Ça s'appelle Essentiel Librairie. Et c'est de Christian Torel qui a dirigé pendant 40 ans la très belle librairie de Toulouse, Ombre Blanche, un texte écrit à l'occasion évidemment des 40 ans de la loi Langue, de l'indispensable loi Langue, puisqu'elle a permis ce prix unique du livre qui a sauvé la librairie, la littérature, les écrivains, etc. Donc une ode à la librairie, au métier de libraire, aux auteurs qu'il aime, ça il est très clair, Philippe Jacotet en tête, aux petites maisons d'édition de Verdier à Galilée, et puis pour répliquer au commerce en ligne, Christian Torel, dans ce livre, rappelle cette évidence, mais que j'adore voir rappeler. On n'achète pas un livre qu'on ne voit pas. Et en librairie, on vient trouver ce que l'on ne cherche pas. Et je trouve ça magnifique. Ça pourrait être la devise des masques littéraires. On n'achète pas un livre qu'on ne voit pas. En librairie, on vient trouver ce que l'on ne cherche pas. Christian Torel, donc, Essentiel librairie. Oui. Frédéric.
Le mystère Yves Adrien de Cédric Bru chez Séguier. C'est la mode des biographies de fantômes après Jacqueline de Ribes par Dominique Bonnat. Là, on a Yves Adrien par Cédric Bru. Yves Adrien, c'est un critique de rock qui travaillait à Rock and Folk et qui est l'auteur de trois livres que peu de gens ont lus, mais qui sont cultes. Nouveau Vision en 1980 et puis ensuite deux recueils de textes assez hermétiques. Et la question, c'est comment enquêter sur quelqu'un qui se cache depuis 50 ans et qui réapparaît très très rarement. Et est-ce que c'est un dandy ultime, un poète maudit, ou est-ce que c'est un zombie détruit par le LSD? C'est la question que pose cette enquête sur le Daft Punk de la littérature, Yves Adrien.
Et c'est chez, tu rappelles, Fadé?
Chez Séguier.
Chez Séguier. Et enfin, le conseil d'Arnaud?
Pour moi, il y a un événement éditorial inouï. C'est un essai d'Éric Marty qui s'appelle « Le sexe des modernes ». Éric Marty, c'est un spécialiste de Roland Barthes, et dans cet essai assez volumineux, hein, 500 pages, il fait l'archéologie de ce qu'on appelle la théorie du genre, dont il dit dès la première ligne de son livre que c'est la dernière grande idée philosophique que l'Occident a donnée au monde, et on sait comme cette idée de la théorie du genre ne passe pas très bien. Et donc cette théorie, elle a des soubassements français qui ont été complètement transformés par Judith Butler, c'est vraiment une théorie américaine, la théorie du genre, mais il se trouve que conceptuellement, elle est née avec la French Theory, et donc c'est à la fois très littéraire, parce qu'il est question de Sartre, de Genet, de Barthes, de Derrida, etc. Et c'est indispensable. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu un livre en me disant, il va rentrer directement dans la bibliothèque universelle du savoir, c'est inouï. Et donc c'est Éric Marty, Le sexe des modernes, c'est au seuil de la collection, la célèbre collection Fiction et compagnie.
On ne peut pas imaginer, chers auditeurs, des choix plus variés de conseils. En fin d'émission, merci beaucoup Patricia Martin, Jean-Claude Raspienjas, Frédéric Becbédé, ainsi qu'Arnaud Vivian pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin, avec la collaboration de Lisiane Sélam, et ce soir au Théâtre de l'Alliance Française, à la technique. Il y avait, et je les remercie, Christophe Michou ainsi que Stéphane Touvenin. La réalisation était signée Xavier Pestugia. Dans une semaine, on parlera de cinéma, je dis bien de cinéma. Et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.